88.3
Radio Campus. Radio Campus.
Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
Radio Campus. Radio Campus.
Avez-vous autre chose à dire, monsieur l'écrivain tout nu, ou pouvons-nous continuer notre route?
Radio Campus. Radio Campus.
Ce sont des êtres humains à part entière. Ils sont là pour permettre d'atteindre un nouveau stade de développement spirituel.
Ça alors, c'est incroyable.
88.3
ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour, bienvenue sur Campus 88.3 FM, bienvenue dans Écoute ta fac. Il est 12h06, on n'est pas en avance, mais on est là quand même, c'est le principal. Alors on va faire plein de choses aujourd'hui, on a pas mal d'invités, on a le festival Les Chatoyantes qui revient en effet dans le Gâtinais à côté de Montargis, à Ce Poix, avec Jules qui viendra nous parler un petit peu de ce festival qui fête sa 4e édition les 24, 25 et 26 juillet, voilà. 24, 25, hein, 26, jusque dans la nuit, à Ce Poix, donc dans le Loiret, près de Montargis. Et puis, on aura également Monsieur Bernard Robert de l'association des habitants de la Source qui viendra nous présenter le nouveau numéro de l'Indien, le journal de l'association des habitants de la Source. Ce journal, il revient en effet sur... Bah à la fois ce qui va pas à la source, mais aussi surtout ce qui va bien à la source. On commence avec Odé Bongo, avec un titre qui s'appelle Pandora, pour se mettre en jambe. Pour se mettre en jambe. Et voilà. Bonne journée sur Campus. Thank you. À l'instant, c'était Audi Bongo avec Pandora. C'est extrait de Bongoville, un album qui est sorti chez Zamzam Rec, le label de Saint-Aignan-sur-Cher, du côté de Blois. Nous sommes en compagnie de nos invités, Jules et Tristan, du Gâtinais Libre. Vous venez nous présenter le festival Les Chatoyantes qui aura lieu à Sepoix les 24 et 25 juillet prochains. Quatrième édition de ce festival qui allie musiques actuelles et éco-citoyenneté. Alors peut-être que vous pouvez nous présenter davantage ce festival, Jules et Tristan. Bonjour au fait. Hein. Hey.
Bonjour à tous. Bonjour Viviane, bonjour Radio Campus, bonjour à toutes et à tous.
Je ne vous entendais pas. Bonjour, bonjour.
Les Chatoyantes aura lieu... Les 24 et 25 juillet prochains au château de Sepoix, proche de Montargis. C'est la quatrième édition. On est impatient de d'y être. On a encore un peu de quelque chose à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait près de 10 mois qu'on est une trentaine à charbonner dessus et voilà. C'est une sacrée aventure.
Alors, c'est pas la seule occupation de... Oui, c'est bon, on entend bien. Toi, tu n'entends pas, en fait. Prends un autre casque, je pense que tu vas bien entendre. C'est pas normal qu'on ne vous entende pas, en fait. Voilà. Prenez des casques, prenez tout ce qu'il faut.
Je t'entends.
Voilà.
Ok.
Là, maintenant que c'est parti, je peux pas tout lâcher pour venir régler vos trucs de vos côtés. Vous m'entendez? Vous vous entendez? Vous avez des petits boutons pour régler les casques, en fait. Normalement,
moi,
si vous mettez tout à fond, en fait, vous allez finir par entendre sérieusement les choses. Voilà.
Ok, moi je t'entends très bien.
Et bah c'est parti.
Pareil.
C'est super. Donc c'est pas la seule activité de votre asso, Gâtinais Libre. Loin de là, vous organisez pas mal de choses, dont ce festival Les Chatoyantes depuis déjà 4 ans. Est-ce que c'était le festival d'origine? Est-ce que c'est votre première activité?
Bah c'est bien, c'est une très bonne question. T'entends Tristan la question?
Oui.
Génial. Les Chatoyantes, on a tendance à dire que c'est un peu la vitrine du Gâtinais Libre. Le Gâtinais Libre, c'est donc un projet de territoire autour du Gâtinais, donc autour de Montargis, entre le sud Seine-et-Marne, donc Fontainebleau et Montargis, le nord-est Loiret, jusqu'à Pithiviers aussi, donc la région naturelle du Gâtinais. Et notre projet, c'est vraiment d'y développer la culture, donc comme tu disais, les musiques actuelles, la culture populaire, l'éco-citoyenneté, tout simplement pour créer du lien entre les gens, participer un peu à la cohésion, à l'attractivité du territoire, créer des espaces de création, d'expérimentation, d'échange dans une société qui en a bien besoin, et notamment en milieu rural où on est tous un peu plus loin les uns que les autres, où on est tous très différents, on est tous pris par nos vies, nos métiers, où c'est pas évident d'être ensemble, mais voilà, on a envie en tout cas d'y contribuer à travers notre projet culturel et à travers Les Chatoyantes. Les Chatoyantes, c'est donc la quatrième édition. La première a eu lieu, me semble-t-il, si je sais compter jusqu'à 4, en 2023, 24, 25, 26, c'est ça. Et donc on organise d'autres événements dans l'année, des concerts, d'autres festivals, notamment l'Entente Festive Gâtinaise, qui est un festival qui a lieu début de l'été dans une ferme brasserie entre Orléans et Montargis, à Sceaux du Gâtinais, et les Fulgurances électroniques qu'on organise avec Claire Obscure à Orléans, et la dernière édition a eu lieu l'année dernière. Donc voilà, les Chatoyantes, c'est le grand rendez-vous de l'année, en tout cas pour notre association et notre communauté. Et voilà, on touche un public local du Gâtinais montargois, un public d'Orléans, un public de Tours, un public de région parisienne, de Paris, et parfois même de l'étranger, de Bruxelles ou bien d'Allemagne. On a des camarades qui viennent en masse de ces coins-là.
Et c'est quoi le modèle économique? C'est une association, mais comment elle vit cet asso dans le Gâtinais?
Le modèle économique, du Gâtinais Libre. Donc on est une asso loi 1901. On est chaque année entre 60 et 80 adhérents. On a eu jusqu'à présent quelques services civiques, quelques stagiaires. On n'a pas de salariés. On est comme beaucoup d'associations. En tout cas, on est assez intégrés. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les collectivités locales, avec des structures et des réseaux, comme par exemple le réseau de la FRACAMA auquel on est affilié, le pôle et fédération des musiques actuelles de région centre, d'autres réseaux locaux comme par exemple le PTCE, le pôle territorial de coopération économique qui mélange des assos et des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans le Gâtinais. Donc on est en réseau intégré, on a bossé aussi avec la Ligue de l'enseignement, on a bénéficié de certains accompagnements, on bénéficie aussi de certains financements. Alors c'est de plus en plus compliqué, comme pour beaucoup de personnes,
beaucoup de festivals,
beaucoup de structures,
oui.
Beaucoup de festivals, bien sûr. On a, jusqu'à présent, on a eu quelques financements, on va dire, nationaux, régionaux, à la marge, et très peu, voire aucun financement de collectivités locales pour des raisons... pour plusieurs raisons, mais c'est vrai qu'en général, les collectivités locales, en tout cas en milieu rural, elles n'ont pas forcément la vision que peuvent avoir des plus grandes villes, ou bien on va dire des plus grandes villes qui ont plus de moyens, ou en tout cas qui ont un intérêt plus prononcé, plus évident, plus historique avec la culture. C'est vrai que dans le Gâtinais, la culture, enfin de la culture en tout cas, ou de la fête, c'est beaucoup... Des comités des fêtes qui organisent des feux d'artifice, qui organisent des événements dans des salles polyvalentes, des thés dansants, des choses comme ça, ce qui est bien, ce qui est nécessaire, mais qui est assez différent de notre projet. Donc voilà, notre projet parfois est difficilement, on sent qu'il y a un
pas
manque
forcément bien compris,
de compréhension, et voilà, on fait beaucoup de plaidoyer, beaucoup de politique, on prend le temps de vraiment discuter avec les élus, on prend notre mal en patience pour essayer vraiment de leur faire comprendre à la fois le projet et aussi l'importance que ça a pour le territoire. Je parlais tout à l'heure de cohésion, d'attractivité, du fait que ça fait parler aussi du territoire, le Gâtinais, le Gâtinais libre, en dehors de ses frontières. Donc le modèle économique, on essaie de le rendre de moins en moins dépendant en fait des financements extérieurs, puisque on sait qu'on peut difficilement compter sur ça et que la tendance va être de plus en plus défavorable, on va dire, aux acteurs de la culture avec tout simplement la conjoncture politique et culturelle actuelle.
Qui n'est pas fantastique dans le Montargois.
Voilà, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait réduit par deux nos budgets cette année d'événements. Les Chatoyantes, on passe de 80 000 euros à 40 000 euros. Et moi, j'ai entendu un jour un camarade me dire que un euro économisé, c'est 3 de gagner, un truc comme ça. Enfin, je sais pas quelle équation il a fait, mais en tout cas, c'est vrai que le moins on dépense d'argent, le moins on a besoin d'en trouver ailleurs, le plus on peut se concentrer sur le projet, le moins on est en galère vis-à-vis de partenaires, etc. Donc cette année, la politique, ça a été vraiment l'austérité complète, enfin grosse austérité. Donc on a de la chance d'être accompagné, d'être supporté par des partenaires, des prestataires, des artistes qui sont alignés avec notre projet, qui nous connaissent bien, qui connaissent nos difficultés aussi. Donc on a en tout cas un engouement presque militant finalement de notre communauté. Donc c'est une bonne chose. Donc tout le monde est vraiment acteur sur cet événement. Et après,
c'est le public qu'on engage aussi en fait dans les festivals. Hein. C'est les passes que vous programmez, que vous proposez en fait bien avant. Le début du festival, notamment les passes early, en fait,
oui.
Les propositions que vous faites en termes de passes, les tarifs réduits,
oui,
solidaires.
Alors,
pour...
C'est vrai. Donc là, on a un petit dépliant sous les yeux. Nous, on propose un pass deux jours, un tarif classique à 28 euros et un tarif, on va dire, comme tu dis, early, ou en tout cas pour les personnes qui les prennent en avance, à 19 euros pour deux jours de festival. Ça, c'est vraiment très peu cher. Hein. Il y a peu de festivals que je connaisse qui proposent des tarifs aussi bas.
En dessous de 30 euros, c'est rare.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a peu de financements, voire pas ou peu de financements locaux, ou bien on va dire voilà, régionaux, nationaux. On a aussi, c'est une réalité, hein. Le Gâtinais, je rappelle que ça veut dire la terre pauvre, donc c'est un territoire qui est, où voilà, on a des données socio-économiques qui sont pas forcément flatteuses. En tout cas, le Montargis, c'est une ville où près de 30% des gens vivent en dessous du seuil de précarité. Donc en fait, les gens, c'est une réalité, ont pas ou peu de pouvoir d'achat, et notamment pour des activités culturelles, surtout quand ils sont habitués à des activités, tout à l'heure je parlais des comités des fêtes, etc., des activités qui sont gratuites en général, où on va à la buvette et une bière ça coûte 2,50€, 3€. Là on est sur un événement avec des artistes qui des artistes locaux, mais des artistes qui viennent aussi de l'étranger, avec une certaine proposition, une certaine qualité, et les gens ont pas forcément cette compréhension, et nous on se doit en tout cas de mettre les bas les plus bas possibles pour tout simplement attirer un public, et notamment un public éloigné de l'offre culturelle, parce que nous, voilà, notre pari, c'est de, notre projet, en tout cas notre vision culturelle, c'est d'offrir la culture à des personnes qui n'ont pas forcément ces habitudes culturelles, leur offrir... J'aimerais bien savoir un jour le pourcentage de personnes qui sont primo-festivaliers sur nos événements, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait de festival, puisqu'il y en a une partie très très importante de personnes qui n'ont jamais fait de festival. Et c'est une vraie fierté en tant qu'organisateur d'événements de se dire « Ok, bon, bah, là, on organise un festival, et il y a une partie très très importante, je sais pas, 10, 20, 30, 40% de personnes qui n'ont jamais fait de festival et qui vont être émerveillées, qui vont découvrir quelque chose. Et ça, c'est une vraie fierté. Donc voilà, on a peu de financement, on est obligé de tirer un max les prix vers le bas. Du coup, voilà, comme je disais, que ce soit voilà, les entrées ou les consommations, grâce à nos partenaires prestataires, aux artistes, on arrive quand même à avoir beaucoup de soutien de la part de personnes avec qui on a affaire, qui viennent pour des prix assez bas, et avec qui on trouve des arrangements. Et après, la dernière chose que je voulais dire, c'est que cette année, on a en fait créé des toilettes sèches pour notre festival, donc qui est un festival éco-citoyen. Parce que jusqu'à présent, en fait, on avait des prestations d'une autre asso qui est plus en mesure d'en proposer. Et en fait, on propose à d'autres assos locales des prestations de toilettes sèches. Donc en fait, on les apporte, on les monte, on va les exploiter, les nettoyer. Ensuite, on va évacuer la matière organique et on va faire une permanence pendant 1, 2 ou 3 jours. Et ça, c'est quelque chose qu'on facture entre 700 et 1100 euros entre 1 et 3 jours. Et en fait, c'est ça qui nous permet aussi de lever des fonds pour pouvoir financer nos événements. Donc on a été obligé en fait de réadapter notre modèle économique.
Des moyens de financement propre en fait. Ouais.
Exact, c'est
pour
ça.
Pour des toilettes sèches, il vaut mieux que ce soit propre.
Ah bah oui, c'est sûr.
Qu'est-ce que je suis fun. Et bien on va passer maintenant à la programmation de ce festival. Belle programmation avec à la fois en effet des artistes locaux, régionaux, c'est le cas d'Attili en fait, du dub qu'on va écouter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore en fait en matière de locaux et régionaux sur ce festival? J'y vais. Bah, tu m'aides.
Oui.
Madame Sacha.
Oui, tout à fait. Madame Sacha, c'est une diva du Gâtinais. Une femme, un personnage haut en couleur qui a de multiples facettes, qui est comédienne, chanteuse, qui est très engagée aussi pour le territoire, qui organise des événements, qui voilà fera du théâtre chanté, donc et notamment qui rendra hommage à une icône des années...
Le cas Marianne Oswald.
Exactement, à une icône des années 70-80, ou bien peut-être des années 20 ou 30, mince, il faut que je revoie mes fiches. Mais en tout cas, Marianne Oswald était une grande poète des années folles, et qui se produisait à Paris, à Berlin, qui était proche de beaucoup de musiciens aussi. Et le but, c'est de lui rendre hommage à travers justement des interprétations... En théâtre et en chanson, il y a aussi comme artiste locaux Freddy Miller, qui est un artiste soul blues, qui sera accompagné par un excellent pianiste et qui est une voix assez connue du monde justement du blues et de la soul au-delà du Gâtinais et même de la France, puisque c'est un artiste qui se produit régulièrement aussi à l'étranger, qui a de très très bonnes critiques. en artistes locaux, on a aussi Guinguette 3000, qui est un groupe de chansons françaises électro-pop punk assez déjanté, qui propose un spectacle sur scène en fait, mais qui a ses propres compositions avec des costumes littéralement lunaires tout en aluminium ou avec des en fait c'est un groupe qui s'autoproclame prophète, le jeu de mots pour la fête prophète, et qui vient du futur pour amener la fête, la vraie fête aux humains du présent, qui vient du sud Seine-et-Marne. On a aussi d'autres...
Il y a des collectifs de notre région en musique électronique ou en groove, hein, que Club Sauvage de ça. Tours et puis Fire Crew du Gâtinais.
Exactement, c'est ça.
Vous faites la part belle également en fait aux artistes européens. Alors il vient de Bruxelles, PHMP3 en fait, lui il va proposer une drum techno, donc ça c'est toujours assez performatif et assez captivant en fait pour le public, hein, vraiment d'avoir un artiste qui fait une techno qui est faite avec une batterie en fait, en live, voilà.
Exactement, ouais. La musique électronique incarnée par des humains et par des instruments, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose qui permet en fait à la fois, et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on voulait toucher un public local éloigné de l'offre culturelle, et notamment un public très très hétérogène. On veut toucher des jeunes comme Tristan et moi, des un peu un tout petit peu moins jeunes comme toi, comme d'autres, mais aussi des personnes.
Merci. Tu dévoiles en fait mon âge à l'antenne.
Non,
presque. Mais... Tu dis que je suis vieille.
Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que
grâce aux vieux comme nous, il y a des jeunes comme vous.
J'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on touche des personnes, de toutes les générations. Mais enfin, nous, on est d'une génération assez proche quand même. Genre, je veux dire, on touche aussi des retraités, des voisins. Cette année, le thème, c'est Mamie en folie. Donc,
oui,
on a envie de mettre en avant les personnes âgées.
Mamie comme moi.
Et si tu veux, alors.
Les mamies techno, comme moi.
En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour toucher un public très très différent, il faut avoir des propositions qui sont différentes, mais qui restent cohérentes dans l'ensemble. Et parfois, il y a des propositions même qui, de par leur hybridité, vont pouvoir satisfaire des publics différents.
Et en fait,
c'est exactement le cas de PH, qui va faire de la techno. Donc là, youpi, on va se régaler avec les copains et les copines. Mais... avec la batterie, on va pouvoir aussi satisfaire un public qui n'est pas pro-électro, typiquement des retraités ou des voisins, et en fait qui vont redécouvrir un peu, redécouvrir la musique électronique, et on va réussir à, sur le dance floor, à avoir des gens très très différents. Et ça, c'est un vrai pari qu'on fait nous dans la direction artistique, en programmation. On se creuse vraiment pour avoir des propositions qui sont à la fois au sein même d'une même progra, toucher des gens différents, mais des propositions en tant que telles qui par leur hybridité, leur éclectisme, notamment avec la dimension spectacle. Tout à l'heure, je parlais de Guinguette 3000 qui fait donc pop rock électro avec une dimension spectacle. C'est un peu le cas aussi de Planète Boom Boom qui fait, on pourra peut-être en reparler, mais qui fait de l'électro et qui va proposer en fait un spectacle aussi. En fait, on essaie vraiment de se dire, ok, tout le monde sur une proposition, on sait que très bien qu'on peut pas satisfaire tout le monde tout le temps, c'est impossible, mais un maximum de personnes va pouvoir trouver de l'intérêt d'une manière ou d'une autre, plus ou moins près de la scène, mais va pouvoir trouver un intérêt, et c'est ça qu'on veut faire. Et encore une fois, il y a plein de festivals qui mettent deux scènes, par exemple, on pourrait le faire, on n'en a pas trop les moyens, mais il y a aussi cette idée de se dire, on va mettre ensemble des gens différents, et c'est notre pari aussi, c'est notre volonté, parce que c'est comme ça qu'en fait on fait la fête ensemble, on apprécie ensemble, on découvre les goûts et les couleurs des autres. On se regarde, on se comprend, on communique, on se respecte, etc. C'est aussi nous en tout cas l'idée de qu'on se fait un petit peu de la culture, et c'est vraiment le pari culturel qu'on veut proposer aux chatoyantes.
Alors les chatoyantes, on le rappelle, hein, c'est à ce poids le 24 juillet à partir de 18h jusqu'à 2h et le 25 juillet à partir de 15h jusqu'à 3h. Vendredi 24, vous pourrez retrouver Madame Sacha, Radio Locaux, Attili, Club Sauvage et PH. Et le lendemain, Freddy Miller and Said, Mélisse, Guinguette 3000, Tao, Planet Boom Boom et Fire Crew. Vous faites la part belle également à des spectacles et des animations, puisque c'est un festival très familial. On rappelle qu'il est gratuit pour les moins de 14 ans aussi. Des déambulations de clowns, des spectacles pyrotechniques, une initiation au cirque, du maquillage bien sûr, de la magie, des percussions africaines, un carnaval ambulant, des créations de totems, du mapping sur le château, le tournoi de pétanque et une friperie géante également en fait. Par Cowboy Bishop. On le rappelle, en fait, les billets sont en vente. Il n'y a plus de early, mais vous pouvez, à partir de 28 euros, vous munir en fait, d'un pass qui vous permettra en fait, d'assister à tous les concerts. On le rappelle, en fait, vous avez la billetterie sur shotgun.live en fait, pour acheter vos billets pour les chatoyantes. Merci beaucoup Jules et Tristan d'être venus parler de ce fabuleux festival, les chatoyantes, 4e édition. À ce point.
Merci beaucoup à toi, merci beaucoup. À vous, et puis bonnes vacances et au plaisir de vous voir aux chatoyantes en nombre, en couleur et en joie, comme on dit. Comme on dit si bien sur nos flyers.
Et puis ça crame. Nous le rappelle Planète Boom Boom. Voilà, donc c'est extrait de leur album, l'album La Lutte est belle, en fait, l'album des 130 ans de la CGT. Planète Boom Boom, je crois que tout le monde connaît, ou presque aujourd'hui. Une formule très efficace de l'électro boom boom. Voilà. Et puis une réflexion quand même assez engagée. Sur tout ce qui se passe dans nos vies, voilà, on va faire simple pour pas dire qu'ils foutent les pieds dans le plat, grave, hein, voilà.
C'est ça, exact.
Donc belle programmation et merci beaucoup d'être venu nous parler des chatoyantes. On écoute ça crame.
Allez,
boum, boum.
Let's go.
Merci.
Ouais c'est vrai, c'est trop fun de bosser quand tu fais 50 degrés. De tout fait sur les chantiers, de se buter pour le PIB, de tout carboniser pour enrichir les planqués. Parce que c'est notre projet. Système crépusculaire, ambiance caniculaire, je veux voir toutes les mains en l'air.
Campus à l'instant, c'était Sacram, Planète Boum Boum, vous les retrouverez le 25 juillet à Sepoix pour le festival Les Chatoyantes dans le beau château de Sepoix. On va continuer en fait, écoute ta fac avec notre nouvel invité. Bonjour Bernard Robert. Alors c'est un invité qu'on a l'habitude d'entendre sur notre antenne puisque vous venez nous présenter L'Indien, le journal de l'association des habitants d'Orléans, La Source. Bonjour Bernard.
Bonjour, merci de m'accueillir.
C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de feuilleter L'Indien et même de faire plus que le feuilleter, de le lire intégralement. C'est ce qu'on a fait en fait pour préparer l'émission. Alors il est 12h37, on n'est pas très très en avance. Mais quoi qu'il arrive en fait, on va essayer de découvrir un petit peu tous les articles que vous avez écrits en fait, le collectif des habitants d'Orléans-La Source. Alors vous commencez ce numéro de juillet par un édito qui titre « Qu'est-ce qui ne va pas à La Source ?». Alors c'est en réaction en fait bien sûr à cette finale de football du 31 mai 2026 qui a un petit peu chamboulé La Source, où il y a eu en fait des échauffourées en fait et il y a eu pas mal de casses en effet. Les portes de la médiathèque cassées, les ordinateurs cassés, les extincteurs vidés, le tram malmené, enfin bref, vous avez de nombreuses questions en fait auxquelles vous essayez d'apporter des réponses, des questions en effet sur que s'est-il passé pour qu'on en arrive là en effet quoi, alors qu'on devrait célébrer cette fête oui. Du football.
Alors pour le moment, les questions, elles existent toujours hein, et c'est pour ça qu'on propose à la fin de cet édito, de se rencontrer toutes les personnes qui sont, toutes les associations, mais aussi bien les collèges, par exemple. Hein, on va essayer de rencontrer, de faire rencontrer tout le monde à la rentrée, hein, pour essayer de voir comme pourquoi il y a des jeunes qui sortent de chez eux, hein, et puis qu'un seul coup, ils se mettent à attaquer un tram. Ou attaquer une médiathèque. Ce sont deux outils de la société, hein, la médiathèque comme le tram, qui sont importants pour l'ensemble de la société, y compris pour eux. Hein, et pourquoi, d'un seul coup,
on s'attaque à ces
emblèmes. Ils sortent de chez eux pour casser. Et ça c'est notre grande interrogation. Donc on veut essayer, il y a plein d'acteurs ici à La Source qui travaillent avec les jeunes, aussi bien les enseignants, mais aussi les clubs sportifs. On veut essayer de rencontrer, de faire rencontrer ces gens-là. Hein. Donc au mois de septembre, à la rentrée, hein, en octobre, septembre-octobre, on va essayer d'organiser quelque chose pour essayer de comprendre.
Voilà, vous vous rappelez en effet que c'est un quartier où on trouve des équipements. La médiathèque, l'hôpital, des services publics qui sont encore présents en fait dans ce quartier. Il y a certains quartiers en France où les services publics ont déserté en fait. Là, c'est pas le cas. C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, où il est difficile notamment d'avoir un médecin traitant. Il y a beaucoup de difficultés en fait dans ce quartier, notamment en termes d'éducation en fait, où c'est plus d'un enfant sur quatre qui n'a pas obtenu le brevet à la sortie des collèges de La Source. Ce sont 10 écoles et 2 collèges classés en REP+, hein, en réseau d'éducation prioritaire, parce qu'ils sont situés dans des secteurs justement qui connaissent une crise de la pauvreté en fait, vraiment. Et puis c'est aussi un taux d'abstention record, donc en effet il y a beaucoup de questions qui sont soulevées en fait au moment où il y a de la casse en effet. On ne comprend pas tellement en fait là où devrait y avoir peut-être une célébration, une fête qui est de la casse de ces outils en fait qui sont destinés à sortir de la pauvreté justement.
Et donc, en ce qui concerne l'abstention, dans une page, l'avant-dernière page de notre journal, on reprend tous les résultats des élections municipales. Et comme on fait d'habitude, hein, parce que c'est important que les habitants de La Source un petit peu connaissent ce qu'on a voté à La Source, et puis découvrent que La Source, c'est, y compris sur l'agglomération, l'endroit où on vote le plus, il y a un bureau de vote qui fait 61% de participation. Par contre, il y en a un autre toujours dans la source, hein, qui fait 18,2% d'abstention. Donc ça fait partie des interrogations. Mais c'est pour ça qu'on avait fait le numéro 144 de l'Indien. Il était consacré d'une façon exceptionnelle, sur 4 pages. On était venu le présenter ici, d'ailleurs, je me souviens bien. Et on avait rencontré les élus, les candidats à ces élections municipales. Et on avait après repris dans l'Indien leur réponse. Hein. L'objectif, c'était aussi d'avancer, nous, nos propositions, mais surtout de montrer aux lecteurs, hein, qu'ils ont, que la source est prise en compte par les candidats pour lesquels ils avaient à voter. Et là, bon, c'est un petit peu la déception quand on voit ces taux d'abstention en général. Bon, on refera, hein, mais on a eu la chance d'être écouté, puisque on a reçu 7 candidats sur 9 dans nos locaux qui sont venus et avec lesquels on a pu discuter. Et on a fait un compte-rendu dans l'Indien qui a suivi, le numéro 144. Voilà.
Alors, ce numéro 145, il est disponible un peu partout en fait, dans le quartier de la Source. Hein. Vous pouvez le trouver, exemplaire papier, toujours, que vous sortez. C'est pas tous les mois, c'est presque tous les 2 mois, en fait, que vous sortez un numéro.
Même tous les 3 mois, les 3. Malheureusement, parce que c'est un gros travail.
Ben oui, et puis vous n'êtes pas beaucoup.
On n'est pas beaucoup. Et puis, on essaye de faire quelque chose de sérieux. Hein. C'est pas parce qu'on veut le distribuer à tout le monde. Il est mis dans toutes les boîtes aux lettres, ce qui demande un certain travail et bénévolement, avec des réactions de certains nombre de gens qui disent pourquoi distribuer dans les immeubles où il va être directement à la poubelle. Non. Nous, c'est un choix. On veut qu'il soit distribué partout pour ceux qui veulent s'intéresser à la source et au sujet qu'on aborde, puissent l'avoir en papier. Bon, peut-être qu'avec les réseaux sociaux, on pourrait faire peut-être autre chose, mais le papier, ça nous semble encore important.
Alors, le journal L'Indien, il y a un édito, en fait, qui est toujours assez politique, on va dire, hein, vraiment dans le sens de la vie de la cité, la vie du quartier. Et puis après, il y a également de nombreuses associations qui sont représentées, de nombreux articles sur des associations engagées, en fait, pour les citoyens de la source. Alors, c'est le cas, en fait, des Restos du Cœur, hein, avec son antenne à la source, hein, où vous faites un article, en effet, où vous interviewez Christiane Bardin, pilier du centre Restos du Cœur de la Source depuis 37 ans, et Guy Moussard, le responsable, depuis 2 ans. On se rend compte qu'il y a 850 familles pour la campagne d'hiver qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, ce qui est énorme, en effet. Voilà, il y a des distributions qui sont notamment réservées aux étudiants, celles du samedi de 9h à 12h. Donc voilà, vous donnez de l'information pour les habitants de la source, qu'ils soient du quartier vraiment, en fait, de La Bolière, Pierre et Lumière, La Dalle, Kennedy, et puis jusqu'aux résidences universitaires, donc tous les habitants de la source. Voilà, et donc on s'informe en effet sur ces associations engagées. C'est le cas d'une nouvelle association, hein, qui s'est créée récemment. C'est les Sœurs de Cœur du Centre, une nouvelle association qui cherche un local sur la source, mais qui a déjà un local sur le quartier de l'Argonne. Ces femmes d'origine africaine exprimaient leurs difficultés pour l'éducation de leurs enfants dans le contexte de violence et de problèmes d'emploi, en fait, qui se posent aujourd'hui dans les quartiers en France. Donc leur objectif est de se soutenir entre sœurs, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de féministe dans leur action, et elles vont vraiment, en fait, privilégier trois moyens d'action, l'éducation, la santé et l'entraide. Voilà, c'est important en effet pour ces sœurs de suivre la scolarité de leur enfant et de faire en sorte également que la santé et la prévention en fait puissent être accessibles à tout le monde.
On a été beaucoup impressionnés en discutant avec elles par leur sérieux, par leur volonté de s'insérer aussi, hein, de refuser d'être en permanence des gens qu'on va aider. Mais elles s'entraident entre elles, elles se soutiennent. Et ce qu'on a repéré, c'est que leur volonté, c'est d'apprendre le français. Hein. Quand ils nous disent on veut pouvoir discuter avec les enseignants de nos enfants, hein, ça veut dire qu'on discute en français. Hein. Et il y a quelques-unes qui même se payent le luxe d'appeler leurs amis, leurs familles, etc., rester au pays, en leur disant non, n'arrivez pas comme ça. Arrivez avec des notions de français. Hein, parce que vous aurez à vous insérer et la France, c'est dur. C'est ça, ça nous a beaucoup impressionné d'entendre ces choses-là. Et pour nous, on va continuer à travailler un peu avec elles parce que ça nous semble intéressant.
Oui, les unes vont se servir d'interprètes pour justement favoriser cet apprentissage du français. Et après, en fait, peut-être se tourner vers les associations du quartier comme ACM Formation qui vont leur permettre, en effet, de s'initier au français ou bien même, en fait, à la bureautique avec Action. Voilà. Et puis l'entraide est bien sûr au centre de leur action, en fait, que ce soit pour organiser justement des garderies entre elles. Ça, c'est vraiment la vie de quartier. C'est comment, en effet, on permet aux unes et aux autres de pouvoir, en fait, se libérer pour pouvoir passer du temps pour soi, mais aussi, en fait, avoir un rendez-vous de santé, par exemple, faire des courses, enfin voilà, faire la vie du quotidien. Quand on a trois enfants à garder, c'est pas forcément évident. Et puis, on sait très bien que si on les lâche un peu trop dans la nature, en fait, ça va pas aller.
Aller en réunion de parents d'élèves, par exemple.
Donc, les Sœurs du Cœur, centre, elles cherchent en effet un local et j'espère qu'elles l'auront, ce local en fait, qu'elles demandent à la mairie d'Orléans en fait, pour y tenir une permanence, pour accueillir en fait, plus facilement les femmes du quartier en difficulté. Voilà, une belle association qui se crée en effet sur la source, les Sœurs de Cœur du Centre. Alors, d'autres associations sont mises à l'honneur, en fait, en termes d'action solidaire, en effet, dans votre journal L'Indien. C'est le cas de Main dans la Main 45. C'est un ESAT, en fait, qui est établi en SCOP, en fait, en société, en fait, qui est ouverte aux salariés, en fait, et qui, cette SCOP, en fait, cette ESAT, entreprise spécialisée d'aide par le travail, en effet. Elle va permettre à des personnes en situation de handicap de trouver un emploi dans des activités d'imprimerie, de conditionnement, de façonnage pour l'industrie pharmaceutique. Alors elle s'était déjà implantée auparavant en fait dans d'autres villes et puis il y a eu plein de difficultés économiques qui ont fait que justement cette entreprise a été ouverte aux salariés en fait pour renaître. Voilà, et apparemment, ça va mieux quand même.
Oui, on était bien reçus, et surtout, et on a eu l'occasion, on a discuté pas mal avec la gérante, mais tous nos articles sont faits à partir d'entretiens qu'on a avant. Hein. Et là, on a discuté avec quatre salariés qui géraient l'entreprise. Hein, et dans lequel il y avait, elles étaient tous en personnes handicapées, hein, et c'est très intéressant, elles prenaient très au sérieux, Hein. Alors, il faut dire aussi que cette entreprise, le fait de l'avoir transformée en SCOP, a sauvé leur emploi aussi. Oui. Hein. Parce qu'autrement, ils auraient été obligés de se retrouver un emploi dans une autre entreprise. Mais là, il semblerait que tout se passe bien. Et maintenant, il est important de développer cette entreprise et surtout les bons de commande.
Donc voilà, un article en effet à retrouver dans l'Indien de ce mois de juillet, main dans la main 45, le nouvel élan en fait de cette entreprise. Vous faites la part belle également à des associations qui vont œuvrer, des associations ou des services de l'université notamment, qui vont œuvrer pour la biodiversité et pour lutter contre la carbonisation en fait, de la France. On voit, ça chauffe, il fait trop chaud, il faut des arbres. Et The Shifters Loiret, en fait, eh bien, vous avez pu les rencontrer justement pour mettre en valeur leur action, en fait, notamment dans les établissements scolaires, en particulier en classe terminale à l'Université d'Orléans ou au sein de Polytech. Voilà leur action d'éducation populaire pour accélérer la transition du pays pour atteindre la neutralité carbone. Voilà.
Là, c'est aussi intéressant parce qu'on passe de l'ingénierie à la pédagogie et à l'information sur le terrain. Il participait aussi à des fêtes et ça nous semblait intéressant, d'autant qu'on a un militant, l'association est sur la source.
Voilà, un de ses fondateurs, Richard Moutard, habite la source de The Shifters Loiret. The Shifters, bien sûr, c'est The Shift Project, une association qui a été fondée en 2010 à l'initiative d'experts dont Jean-Marc Jancovici, Geneviève Ferron-Creuset et Michel Le Petit. Bien sûr, ces experts en fait sont là pour organiser le plaidoyer, mais il y a 30 000 sympathisants en fait de cette association et 57 comités locaux parmi les métropoles françaises, dont Orléans en effet, avec cette action de Richard Moutard en fait, et lui il insiste particulièrement en effet sur le rôle de l'école et l'intérêt d'intervenir dans les établissements scolaires pour faire changer les mentalités et faire en sorte d'éduquer à la transition énergétique. Alors, il y a des solutions à la source?
Oui, puisque, bon, il y a ce qu'on peut voir, il y a par exemple la chaufferie en biomasse qui prend de l'ampleur, puisqu'ils sont en train, par exemple, d'élargir le réseau de chaleur. Il y a aussi ce qu'on peut voir aussi tous les jours sur les panneaux solaires qui sont installés sur le parking marché.
Du marché, oui.
Bon, il y a un nombre de choses comme ça qui donnent des idées sur le fait qu'on peut changer les choses. Mais probablement, moi, c'est un scoop que je vous donne, qu'on fera une conférence parce qu'en plus de l'Indien, on fait des conférences, on fera probablement une conférence sur justement comment aider les gens, leur donner des conseils quand ils veulent aussi, eux, installer un panneau solaire et pas seulement se fier aux commerciaux.
Oui.
Voilà, on devrait faire ça prochainement, donc à la rentrée.
Et puis toujours dans le domaine de la transition écologique, il y a une balade écologique qui est organisée sur le campus de l'université à l'initiative d'Amélie Roignot, qui est responsable de la transition écologique de l'Université d'Orléans-La Source. Elle nous invite le 24 septembre à l'inauguration du parcours de biodiversité végétale de l'Université d'Orléans. Donc il s'agit de traverser l'avenue du président John Kennedy pour vous promener sur le campus ou de façon inverse en effet au chemin des étudiants, mais voilà, donc aller faire se rencontrer en fait les habitants de la source et les universitaires en fait sur ce campus. une boucle de 2,5 km pour un temps de marche de 1h30 environ, en fait, avec une attention portée aux espèces qu'on peut rencontrer. Voilà, il y a plein de volatiles, notamment, qu'on peut rencontrer autour du lac de la Source. Mais il n'y a pas seulement le lac, il y a plein d'autres endroits de biodiversité sur le campus de la Source.
Cet article montre notre intérêt aussi pour le campus, de faire un lien, parce qu'il y a un nombre d'étudiants qui habitent à la Source, hein, et de faire le lien entre ces habitants, jeunes étudiants, et puis les gens qui travaillent à la Source ou qui habitent à la Source. On ne peut pas ne pas fonctionner ensemble, vivre ensemble.
Et puis le campus, vous le signalez bien dans l'article, est encore un lieu privé de la Source qui est ouvert au public. Ce n'est plus forcément le cas, en fait, d'une grande partie des espaces privés qui... même clos, en fait, était ouvert au public. Là, avec la conception de la nouvelle ville et le grand projet de ville, en effet, on a beaucoup clôturé les espaces et il y a de moins en moins d'espaces ouverts au public, même s'il y a quand même des parcs, quand même beaucoup de choses à la Source où on peut respirer, vraiment, en fait.
Oui, oui, il y a la grande allée de sapins, par exemple. Il y a des parcs qui viennent de s'installer. Il va y avoir un parc important à la place de l'ancien immeuble, la T17, hein, qui est en train de se faire. On peut, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on en profite maximum. On ne peut pas trop se plaindre. Il y a un nouveau jardin qui vient pour les enfants, qui vient dans les immeubles, qui vient s'installer. Donc, il y a des choses intéressantes. Mais effectivement, on peut plus aller aux alentours du CNRS, on ne peut plus aller... Il y a un ensemble de choses qui ont été clôturées. Mais il y a aussi des venelles qui ont été fermées pour des raisons de voisinage. Bon. On a
les
été longtemps...
Notre, de la Source.
Voilà, notre association était longtemps contre ces fermetures, hein, parce que c'était un lien... C'était un lien entre les différents habitants. Et puis, c'est un lieu de promenade aussi pour certains.
Oui, oui. L'Indien, le journal de l'Association des habitants d'Orléans, La Source, on le rappelle, en fait, est disponible partout sur le quartier d'Orléans, La Source. C'est le numéro 145 qui sort là en juillet 2026. Vous êtes le directeur de la publication, Bernard Robert. Merci d'être venu nous parler de tous ces beaux articles que vous avez écrits avec le comité de rédaction. J'imagine, en fait, que si on a envie de vous rejoindre, c'est tout à fait possible.
Ah, tout à fait. Pour écrire.
Oui, notamment.
Hein. Par exemple, il y a une fête dernièrement à La Source où on a fait un atelier d'écriture. L'idée, c'était que les gens qui passaient puissent écrire un article. Bon, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais notre souci, c'est de faire écrire, hein, mais tout en respectant aussi le français. Hein, que ce soit des articles de tenue, hein, de tenue accessible à tous.
Merci beaucoup Bernard Robert pour eh bien cet aperçu du journal L'Indien. À très bientôt.